RCF.
On entend peu parler de la ménopause dans une société qui prône les valeurs de la jeunesse et de l'éternelle beauté. C'est même un terme tabou qui fait peur et que l'on évacue. Cette crise du milieu de la vie est d'ailleurs souvent vécue par les femmes comme une réalité honteuse à cacher. Or, la ménopause fait partie des grands passages de la vie et au-delà de considérations strictement médicales sur le sujet, nous pouvons essayer de mieux comprendre ce qui se joue chez une femme durant cette période charnière. Catherine Bergeret-Amselec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « La femme en crise, la ménopause dans tous ses éclats » paru chez Desclés de Brouwer. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ce thème qui ne fait pas la une des journaux ?
C'est, comme vous l'avez dit, un sujet tabou. Et j'ai donc eu envie, m'intéressant à la féminité qui ne cesse de se sculpter au fil du temps, et je m'y intéresse depuis 18 ans, que je pratique le métier à tisser de psychanalyste en cabinet privé, j'ai eu envie en effet de lever ce tabou. C'est un sujet qui m'habitait depuis plusieurs années, et c'était tout à fait logique. En arrivant moi-même au milieu de ma vie, alors que j'avais traité auparavant les autres étapes clés de la vie depuis la naissance, je me suis dit maintenant, on va donc découvrir un petit peu les turbulences du milieu de la vie des femmes, car elle est traversée, cette vie, au milieu de sa vie, la femme, par une turbulence essentielle, c'est même le nerf central du milieu de sa vie, c'est justement cette ménopause, réduite à un phénomène purement hormonal par les gynécologues, ou tout au moins par la plupart, parce que malgré tout, il y a quand même des gynécologues qui savent qu'il y a concomitante à ce bouleversement hormonal, un bouleversement existentiel majeur.
Donc pas seulement des symptômes, on va y revenir sur les symptômes, sur ce qu'est la ménopause, mais également une crise dans la vie de cette femme qui traverse un âge.
Bien sûr, c'est à un moment donné comme ça, ça nous prend parfois quand on a deux fois 20 ans, parfois ça nous prend lors d'un choc émotionnel, un deuil, un divorce, une rupture, une mutation professionnelle, parfois lors d'un événement fort heureux qui convoque de l'intensité, parfois quand nos enfants deviennent adolescents, tout à coup, on a une prise de conscience et on se dit « mais au fond, j'en suis peut-être à la moitié du parcours ». Évidemment, on ne sait pas, parce que à moins de programmer sa mort, on ne sait pas la date de sa mort, c'est symbolique et subjectif. Et là, on se met à se poser des questions essentielles sur le sens de la vie. On se dit « mais quel sens a ma vie ? Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'ici ? Où en était ma mère au même âge ?» se disent les femmes. Les hommes se disent « où en était mon père au même âge ? Est-ce que j'aurai le temps de tout faire ?»
Et vous situez ça environ à la cinquantaine aujourd'hui.
Je dirais qu'aujourd'hui, d'abord, la vie, les femmes vivent depuis plus en plus longtemps. Donc c'est vrai que le milieu de la vie a reculé. On pourrait dire qu'il est à la cinquantaine. Mais cette question existentielle, ce questionnement, il arrive parfois en sourdine, parfois au pas, parfois au trot, parfois au galop. Il nous arrive en boomerang dès les premiers signes de cette ménopause, quand les cycles commencent à se dérégler. Je dirais que il commence vers 40, 45 ans, il se précise, et qu'à 50 ans, on est dans le questionnement essentiel parce qu'on est travaillé par la ménopause et que comme c'est un sujet tabou, on est dans une certaine solitude et dans un sentiment d'impartage. Avec qui parler de tout cela ? Avec son gynécologue, certes, s'il est un partenaire qui a compris que c'était un passeur, car le rôle du gynécologue est essentiel à chaque étape clé de la féminité. Et d'ailleurs, je compare cette féminité à un tableau qui serait un triptyque en trois volets avec trois charnières pour l'articuler. Il y aurait donc l'adolescence qui serait notre naissance de femme, la maternalité qui serait notre naissance de mère et la ménopause qui serait notre naissance de femme mature. Et notre gynécologue est un passeur qui aide les femmes à passer ces caps difficiles. Et puis, si cette femme a la chance dans l'ici et maintenant d'avoir un compagnon, un mari, c'est pas toujours le cas. Beaucoup de femmes sont seules à cette étape de leur vie. Des enfants qui grandissent bien, un environnement familial, des parents qui ne sont pas trop âgés ou en bonne santé, ou âgés mais en bonne santé, ce n'est pas toujours le cas. C'est une crise existentielle, la crise du milieu de la vie des femmes, c'est une crise de la maturescence où la femme perd ses repères.
Alors, on va peut-être présenter la ménopause. Beaucoup d'auditeurs se posent des questions, ne connaissent pas forcément, surtout quand on n'est pas une femme.
Bien sûr.
Qu'est-ce que la ménopause ? Quels sont les symptômes ?
Alors, la ménopause, c'est quoi au fond ? Qu'est-ce que la ménopause ? C'est Charles Prosper de Gardanne qui, en 1814, a d'abord créé le mot ménesposis, arrêt, cessation des règles. Donc le mot naît en 1823 pour désigner cet arrêt des sécrétions hormonales qui déclenche par conséquence l'arrêt des règles et l'arrêt de cette imprégnation des sécrétions sécrétées par les ovaires. Hein. Donc, en fait, cette ménopause, à part les cas particuliers de ménopause précoce, et il y en a, mais dans la plupart des cas, cette ménopause, elle se décline tout le temps de cette maturescence, c'est-à-dire de ce temps de la naissance d'une femme mature,
donc sur
pendant
plusieurs
années. Bon, la fertilité baisse vers 37 ans. À 40, 45 ans, je dirais que la périménopause, la préménopause, pour être plus précise, elle démarre à 45, 47 ans et elle est faite de fluctuations hormonales avec un hypo et un hyperfonctionnement ovarien, ce qui se traduit par des règles parfois très longues, parfois très courtes, en tout cas un dérèglement des cycles. Ensuite, à 50-52 ans, c'est à peu près l'âge de l'arrêt des règles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette périménopause, péri c'est autour, qui entoure l'arrêt des règles, elle a lieu donc avant et après. Et après l'arrêt des règles, entre 52 et je dirais 60 ans, c'est encore la périménopause. C'est-à-dire, c'est encore ces fluctuations hormonales. Je dirais que les ovaires se calment, il y a une sorte d'extinction des feux, et qu'après un parcours chaotique sur une route qui serait jalonnée de bosses et de creux, où la femme a des bouffées de chaleur très fortes parfois, des tristesses, à la fois une grande envie de tout faire, une sorte de fin de vie, FIM, pour éloigner la question de la fin de vie, où elle a envie de tout faire d'un coup, elle est prise de pulsions ménagères, de pulsions de faire plein de choses, pour combler ce creux, ce vague à l'âme, puis parfois elle est très fatiguée, elle va très mal. Et puis ensuite ça se calme, dans la deuxième partie de périménopause, ça va mieux, c'est comme quand on arrive après une randonnée pédestre sur un plateau où on souffle un petit peu, voyez-vous. Et la post-ménopause, ce n'est qu'après. Et il y a encore des femmes qui ont leurs règles tard, lors de saisons, lors d'événements chocs. Et ce n'est qu'après qu'on peut voir à quoi a ressemblé ce voyage, ce périple, dans l'après-coup de la post-ménopause après 65 ans.
Repère sur RCF.
Catherine Bergeret-Hamselec, on parle avec vous de la ménopause. Alors c'est vrai qu'on associe souvent cette ménopause aux bouffées de chaleur, au risque d'ostéoporose, d'où la prescription de traitements hormonaux substitutifs. Alors que penser justement de ces traitements dont on parle beaucoup quand même?
Alors moi je ne suis ni pour ni contre, parce que d'abord je ne suis pas médecin. La ménopause n'est pas une maladie, je pense qu'un traitement hormonal c'est un traitement palliatif, c'est un soin palliatif au manque d'hormones certes et au manque existentiel qui se creuse à cet instant. Alors le traitement hormonal substitutif, pourquoi pas ? Je pense qu'il ne faut pas être tout pour, tout contre. Le tout psy ou le tout biologique, c'est méconnaître un être global, une femme ou un homme, un être humain, et psychobiologique et bio psychique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les effets psychiques retentissent sur les hormones et un choc, par exemple quelqu'un qui tombe amoureux à 50 ans, eh bien ses estrogènes sont stimulés et son moral aussi.
Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'image du corps, parce que c'est quand même une période où le corps commence à se transformer sérieusement. Enfin, il y a des rides,
voilà, vous dites que la peau se dessèche. Change, la pilosité. Alors si on dit aux femmes comme ça, mais mon Dieu, alors si on nous dit que la peau s'assèche et que les rides commencent à se creuser, si on nous parle de rétraction génitale, on sait que le bouleversement hormonal engendre en effet un aspect, une consistance et une sensation vulvaire différente. Si on nous dit que la pilosité change et que les cheveux changent, on se dit, mon Dieu, je vais vieillir comme ma mère. Et sur ce chemin qu'on emprunte derrière sa mère et qu'on cesse d'emprunter toute notre vie, quand on a 50 ans et qu'on met nos pieds dans la trace de ses pas et que l'enjeu est de faire pareil mais différemment, comme il l'a été à l'adolescence et au moment de devenir mère, on a l'étrange sensation de lui ressembler, car c'est vrai que la différence d'âge se voit moins quand on a 50, 60 ans qu'elle se voyait quand on en avait 20. Et on est reprise alors dans une problématique oedipienne, c'est-à-dire on est reprise dans une ambivalence très forte par rapport à cette mère, où vieillir mieux, c'est la détrôner, vieillir moins bien, c'est ne pas être à sa hauteur. Et en même temps, on a l'impression quelque part, dans cette perte de repère, alors que on a des vertiges, des trous de mémoire, alors que on a l'impression que notre corps et que notre féminité fond au soleil, on perd nos repères et on est propulsé dans des angoisses très archaïques, très profondes, qu'on a peut-être traversées toutes petites dans les bras de notre mère, quand celle-ci fut inconstante une fois.
Mais vous évoquez l'exemple d'une femme à la ménopause qui se regarde dans la glace et qui a l'impression de voir sa mère.
Oui.
Pourquoi ce rapprochement à notre propre mère durant cette période de la ménopause?
Exactement, parce que comme je vous le disais, nous sommes reprises dans une identification conflictuelle avec cette mère. Dans ce chemin de vie, on la rejoint. Cette impression de la rejoindre, c'est l'impression de la rejoindre dans la vieillesse et dans la mort, et ça accentue cette image du corps, comme vous me le disiez, qui bouge. Le plus douloureux quand même, c'est de penser qu'on ne va plus pouvoir faire de bébé, et que le calendrier intime auquel on se référait se périme. Alors c'est quoi ce calendrier intime? Une femme, elle se réfère au calendrier normal, évidemment les dates, les saisons, le temps, mais elle a sur son petit calendrier journal de bord intime la date de l'arrivée de ses règles, de ses premières règles, de la naissance de ses enfants, si elle en a eu, de ses fausses couches, si malheureusement elle en a eu aussi, de ses interruptions volontaires de grossesse, si malheureusement elle a dû procéder à ce genre d'acte, et c'est toujours très douloureux pour une femme. Et là, tout revient. Et qu'est-ce qui revient? C'est tous les bébés qu'on n'a pas eus. Au moment où devenir mère est impossible maintenant, c'est tous les bébés qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas pu avoir, et qui ne sont pas arrivés à bout de course, si j'ose dire, qui reviennent. Et au moment d'accomplir ce petit deuil de soi, ce grand deuil d'une partie de soi-même, c'est tous les deuils passés qui remontent à la surface. Et c'est pour ça que cette femme, prise dans une identification à sa mère vieillissante, elle flirte de très près avec une position mélancolique avant de remonter, quand elle a intégré ce voyage de la ménopause, avant de remonter vers une énergie nouvelle. C'est-à-dire qu'après sa randonnée, sur ce chemin chaotique, elle a fait un arrêt sur le plateau, elle voit de loin à quoi ressemble sa ménopause. Elle voit aussi que si elle abandonne les 40 ans des règles, 40 ans de la vie qui s'en vont, comme un petit ballon qui s'en va dans le ciel ou à l'horizon, elle récupère une énergie merveilleuse. Toute cette énergie qu'elle avait investie pour élever ses enfants, tous les espoirs qu'elle avait voulu quand elle était adolescente. Mais elle va pouvoir enfin profiter de son couple, si tant est qu'elle soit encore en couple. Elle va pouvoir enfin profiter de se laisser pénétrer par la vie.
Repère sur RCF.
Catherine Bergeret-Hemselec, dans votre livre « La femme en crise » paru chez Desclés de Brouwer, un livre sur la ménopause, vous expliquez que c'est souvent dur pour une femme ce passage vers la cinquantaine parce que certaines femmes sont habituées à tout maîtriser, elles sont organisées, et là il y a un passage dans la démaîtrise, un lâcher-prise nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire déjà que dans la perte de repères dont laquelle je faisais allusion, de toute façon, le lâcher-prise, il a lieu. Parce que dans un sens, la perte de maîtrise, elle est réelle. On perd la maîtrise du temps sur ce calendrier intime où on marque la date de ses règles, la date de la naissance des enfants. Tout d'un coup, il n'y a plus tout ça à marquer. Il y a un seul cycle qui se terminera le jour de notre mort. Alors, ça, c'est vertigineux. Mais par contre, le lâcher-prise bénéfique et nécessaire de la chose, c'est que ça amène à lâcher sa tête. On est bien obligé, à un moment donné, de lâcher les images de soi, les identifications à des images de soi.
Qu'on s'est faite toute sa vie, souvent.
Qu'on s'est faite toute sa vie, bien sûr, pour descendre dans son corps. Donc finalement, c'est une chance inouïe d'être ramené à l'épreuve en question, car on est obligé de descendre dans son corps. C'est comme quand une femme va pour accoucher et qu'elle est traversée par les douleurs de l'enfantement. Là, elle est traversée par les douleurs de la maturescence, mais elle est bien obligée de se rendre compte et de descendre en elle. Et au fond, c'est une descente dans le soi corporel, donc c'est une descente dans l'être. Pour nous, les psychanalystes, il ne faut pas oublier que le moi, il se construit d'abord dans les corps à corps avec la mère. Donc c'est aussi un grand rendez-vous avec la mère de l'adolescence, certes, mais avec la mère de la toute petite enfance et avec les tout premiers temps de la vie.
Mais ça veut dire que ressurgissent là, dans ce moment de la ménopause, des passages peut-être douloureux vécus avec la mère?
Bien sûr, c'est là que ressurgissent tous les deuils anciens, tous les chocs anciens qui se sont encryptés dans notre mémoire du corps. Alors, pas forcément les moments douloureux vécus avec la mère réelle, mais surtout, c'est là que ressurgissent tout ce que notre mère nous a transmis au cours de notre vie. Or, faut pas oublier que dans les peaux à peau, les premiers contacts corporels de notre vie, notre mère, elle nous raconte l'histoire des générations. À travers sa façon de porter l'enfant, de le bercer, la tonalité de sa voix, quand on entend nos deux parents parler, on entend une petite musique de nuit au-delà de la petite musique de jour et on sait très bien où ils en sont l'un par rapport à l'autre, par rapport à leurs parents, par rapport à leur identité sexuelle. Et notre féminité se sculpte déjà au berceau, dans le désir d'enfant de nos parents. Si vous voulez une fille ou un garçon, elle se sculpte déjà.
Donc tout remonte là.
Tout remonte, c'est un voyage à travers les âges de la vie. Une femme de 50 ans enfant qui est déjà séparé de sa mère depuis bien longtemps, ou tout au moins elle le pense, on ne cesse de faire des va-et-vient, eh bien les repropulser dans cette crise d'identité, dans une problématique qu'elle pensait résolue, et eh bien elle est repropulsée dans un combat parfois par rapport à sa mère, qui se reporte sur sa ménopause, qui se reporte parfois sur son conjoint, qui devient, représente l'homme menaçant, alors qu'il c'est en fait la mère qui est menaçante, et puis qui se reporte sur ses enfants. Pas facile de laisser passer sa fille et de valider son passeport de la féminité pour la féminité.
Surtout qu'elle est plus jeune et donc même a un corps peut-être plus harmonieux, qu'on peut envier.
Voilà, au moment où la fille est en puberté, c'est sa naissance de femme, ce sont ses premières règles. Une de mes patientes me disait « J'ai attendu pour ne plus avoir mes règles, ça c'est joli, que ma fille ait les siennes. C'était comme un fil rouge qui nous reliait. » Là, c'est harmonieux, on sent cette passation de flambeau, cette femme qui cède justement quelque chose sur son moi, c'est-à-dire qu'elle ne s'identifie plus à la jeune femme qu'elle a été de façon pathétique en s'habillant en adolescente, elle arrive à accepter de s'habiller comme une femme de 50 ans, même si parfois elle met un jean, ça n'a rien à voir. Et puis, tout d'un coup, elle laisse passer sa fille et elle a cette impression merveilleuse d'avoir accompli son travail et que cette jeune fille qui marche à l'horizon, c'est sa fille, elle a fait le deuil de sa petite fille pour laisser passer sa fille, pour laisser naître cette jeune fille qui contient tous les espoirs, parce qu'elle contient aussi ce qu'elle pourrait être aujourd'hui si elle avait cet âge-là. Il n'y a rien de plus accomplissant, je trouve, que de voir ses enfants devenir petit homme et petite femme. C'est extrêmement émouvant. Et je trouve que ça fait du bien. Parce que, en même temps, même si on se sent, on est fatigué parfois aussi, c'est fatigant d'être toujours à la une, toujours coquette, toujours parfaite. Et accepter de vieillir, c'est accepter qu'on est moins performant. De dire, bah oui, j'ai raté ça, je suis plus fatiguée aujourd'hui, je le ferai demain. C'est une indulgence avec soi, avec les autres.
Et c'est accepter peut-être qu'on vieillit, qu'on n'a plus forcément les capacités.
Oui. Et puis surtout, qu'on sent le prix de la vie, là. On sent que la vie est précieuse. On sent qu'on n'a plus de temps à perdre et qu'au lieu de se projeter dans l'avenir, ou de se polariser sur un passé qui n'est plus, ça n'empêche pas de repenser à de bonnes choses, parfois même à de mauvaises, c'est la vie, mais de penser que, voilà, il fait beau. Vous voyez, au moment où on enregistre, je vois le ciel, là, c'est beau ce ciel. Eh bien, il faut aussi penser à regarder le ciel, ne pas être collé à ce qu'on fait forcément, et c'est ça qui est beau. C'est la communication, la transmission, l'être, c'est cette descente vers la vie.
Repère, Béatrice Soltner.
Catherine Bergeret-Amselec, pour l'entourage qui vit à côté d'une personne qui traverse la cinquantaine, une femme qui donc traverse la ménopause, quelle attitude adopter, que ce soit le mari ou alors les enfants ?
C'est une question intéressante parce que malgré tout, je pense qu'il faut se dire que si notre maman ou si notre femme, pour un homme, a entre 45 et 50 ans, elle est quand même bien prise dans des questionnements et des turbulences. Donc le mieux, c'est quand même de lui prodiguer à cette femme en ménopause un environnement constant, justement, comme dans la mère des premiers temps, quand la mère, par rapport à son petit bébé qui ne pouvait pas supporter certaines intensités, jouait le rôle de pare-choc finalement. Bah, je dirais qu'un homme, c'est bien. Non, c'est pas que je voudrais réduire un homme à un pare-choc quand même. Mais je veux dire que c'est bien d'être délicat, d'offrir un petit bouquet de fleurs, de lui dire qu'elle est jolie, sa femme, qu'il l'aime même comme elle est, avec des petites rides au coin des yeux. C'est bien parfois de pouvoir lui faire un bon petit plat, bon, de la coucouner un peu, de la chouchouter. Il n'y a pas de recette, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une époque de grande vulnérabilité, où la femme a besoin d'être réassurée dans sa féminité, et puis qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est vrai qu'à tout âge, il faut dire que quand on dit à un être humain qu'on l'aime, il est évidemment conforté. Mais c'est un moment où on a besoin d'être porté. Bon, pas tout le monde, hein. Il y a des femmes qui, il y a 15% des femmes qui passent cette étape en douceur. Vous avez la ménopause, elle est turbulente, mais là on a parlé beaucoup de la crise existentielle et du bouleversement hormonal. Il y a quand même trois facteurs qui dépendent. Il y a l'hérédité biologique, on n'est pas tout égal. On est souvent ménopausé au même âge que sa mère. Il y a l'environnement dont on parle, l'environnement social aussi, les amis, le métier. Par exemple, il y a des femmes qui vont être très épanouies dans leur travail ou qui vont avoir une vie épanouissante dans des combats ou des causes ou des, je sais pas, des hobbies, des choses accomplissantes. Ça va évidemment les porter. Puis il y en a qui perdent leur travail ou qui sont à la retraite ou évidemment, l'accomplissement professionnel joue un rôle. Il y a l'ici et maintenant, il y a le paysage familial, la crise classique d'adolescence des enfants qui claquent les portes et qui cassent tout, ou leur réussite qui fait du bien. Il y a évidemment l'équilibre du couple. Voilà, tout compte. Hein.
Et alors, les enfants qui sont déjà grands, certains sont peut-être déjà parents. Alors, comment réagit, par exemple, un fils ou une fille devant sa mère qui traverse une période
Il ne le sait pas. Et d'ailleurs, c'est amusant. On se rend compte de la ménopause de sa mère que quand on est soi-même en ménopause. Avant, on ne se pose jamais la question. Réfléchissons. Après coup seulement, on se dit « Ah tiens, mais cette année-là, qu'elle était bien colérique. Oh, mais je me souviens, elle était si fatiguée, elle perdait même un peu la tête parfois. » Parce que parfois, on a toutes des trous de mémoire, des troubles, parfois même on devient irritable, parfois même on s'énerve beaucoup. Puis il y a des cas de ménopause plus lourdes que je n'évoque pas dans ce discours qu'on a là. Parfois, on a des maladies plus graves qui vont arriver à ce moment-là. D'ailleurs, je trouve que c'est souvent quand la crise existentielle n'a pas été mûrie, car c'est une crise maturative et urgente à vivre, qu'on voit des somatisations, des mises en acte plus lourdes. Alors ça peut être au pire la décompensation psychotique et ou la somatisation lourde, un cancer, des choses comme ça. Et puis souvent, on est dans le déni. 15% des femmes la passent en douceur, ça c'est vrai, selon les trois facteurs que j'ai dit, l'ici et maintenant, l'hérédité biologique, l'hérédité de la transmission d'inconscient à inconscient. Mais il y a aussi le déni, celles qui disent « ça s'est très bien passé, hyper bien passé, j'ai rien senti », elles n'en veulent rien savoir. Parce que c'est tabou dans la société, puis parce que vis-à-vis d'elles-mêmes, elles ne veulent pas l'avouer aussi. Ça concerne ce sujet une femme sur trois aujourd'hui, une femme sur deux en 2050.
Est-ce qu'il faut se faire aider et par qui ?
Moi, je pense que les deux personnes essentielles professionnelles, enfin, c'est le médecin et le médecin gynécologue. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le passeur. Mais je pense que passeur et psy sont des sages-femmes à cet instant de la vie qui aident les femmes à accoucher d'elles-mêmes. Donc, en effet, si c'est trop tumultueux, trop difficile, qu'on se pose trop de questions existentielles et qu'on a l'impression qu'on va s'y perdre... Il faut aller parler à un psychanalyste qui, lui, a la formation nécessaire et c'est un cadre où on peut tout dire. On peut aussi se dire, au fond, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le courage, c'est maintenant que je vais faire un travail sur moi, j'ai encore pas mal de temps à vivre, je ne suis plus tout à fait jeune, mais pas encore tout à fait vieille. Dans ce moment de transition, je rassemble mes forces, j'ai envie de bien vieillir, de préparer ma vieillesse. La vieillesse, c'est pas du tout péjoratif, simplement, c'est pas du tout à la mode, c'est une société de jeunisme aujourd'hui. Le mot vieillir, il n'y a rien qui le fait plus peur. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit ce livre, je me rends compte à quel point, quand je suis en contact avec vos collègues, là j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sans tabou, mais ce n'est pas toujours le cas, mon Dieu, dans les journaux féminins, le mot vieillir et le mot ménopause, je crois que les journalistes vont faire une crise cardiaque quand je le prononce, tellement ça leur fait peur. On dirait qu'on sort un diable d'une boîte.
Pourtant, c'est le réel.
Ben, c'est la réalité de nos vies. Vous savez, ça ne rend pas service aux femmes si on ne les autorise pas à se préparer à ces transformations. Qu'est-ce qui va arriver une femme qui aura nié et nié, on peut pas nier et dénier pendant tant de temps. Il y a un moment où ça, où faut bien l'avouer qu'on vieillit quand on a 65 ans, qu'on est grand-mère. Alors quand on voit ces femmes qui ont tel problème d'identité, qui sont dans une crise narcissique tellement forte qu'elles ne supportent même pas qu'on les appelle mamie certaines. Mais il faut laisser passer. Il faut se dire que la vie, ce n'est pas que le paraître. C'est pas facile. Ça fait mal quand c'est soi. On accepte toujours mieux sur les autres. Remarquez, on dit à une amie, mais non, tu es belle, je t'assure. Ou alors, on trouve en secret une femme très jolie, une actrice, une chanteuse. On se dit qu'elle est belle. Elle a une beauté pleine, un vécu plein. Bien sûr, elle a des rides, mais bon. Et quand c'est soi, alors là, c'est plus du tout pareil. On se veut lisse, on se veut avec l'image de nos 20 ans. Mais puisque ce n'est pas possible, il faut accepter que la vie est ce qu'elle est. Et il faut surtout la vivre. Si on n'accepte pas ce qu'elle est, on n'arrive pas à vivre. Et alors, on est dans la mort, justement. Être dans la mort, c'est être figé au passé. La vie, c'est le mouvement. Donc, justement, paradoxalement, vieillir, c'est la vie, c'est pas la mort. La mort, c'est être figé à une image de soi qui serait Sonia, dans mon livre dont je parle. Sonia, c'était une patiente. Je suis pas non plus contre les liftings, pas plus que contre le TSH, traitement hormonal substitutif, mais je suis pour l'élaboration de la crise d'identité sous-jacente. Donc, Sonia voulait faire un lifting, elle le fit, et elle était fort déçue parce qu'il était réussi. Donc, elle était lisse et belle, et elle avait le visage d'une femme de 30-40 ans. Le problème, c'est que son analyse avançant, elle avait tellement assoupli son identité, elle avait tellement accepté de vieillir qu'elle n'était plus du tout en phase avec son visage.
La surface ne correspondait plus au fond.
Non, voilà. Elle se sentait une femme mature et plus toute jeune, mais comme elle avait un visage lisse et tiré, eh ben, elle n'en était pas contente et elle regrettait ses vieilles rides. Et là, j'allais vous dire, on est habitué à son visage comme on est habitué à sa bonne vieille voiture. Non, mais c'est vrai, on est habitué à son visage, à soi, et je crois qu'on a une certaine indulgence avec soi qui fait que, bah, ma foi, c'est pas le plus important, l'apparence. Hein.
Catherine Bergeret-Amselec, merci. Je rappelle le titre de votre livre, La femme en crise, la ménopause dans tous ses éclats, et c'est un livre paru chez Desclés de Brouwer. Merci à vous.
Merci beaucoup.